l'efficacité de la prière. On partage beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets, et j'aimerais vous parler de la prière efficace. On fait une première lecture ensemble dans le livre de Jacques, chapitre 5 et au verset 16. Et dans la version de la parole vivante, il est dit ceci. Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Une autre version dit afin que vous soyez guéris, que vous soyez restaurés dans votre esprit et dans votre cœur. Alléluia. La prière du juste a une grande... C'est ça? La prière du juste a une grande efficacité. Je ferai tout d'abord une différence entre la prière qui s'oriente sur nos besoins personnels, l'intercession qui peut s'orienter vers les autres, et le combat spirituel qui est une autre dimension peut-être de la prière. On n'aura pas le temps ce matin de voir tout cela. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le mot prière ou le mot intercession est certainement le mot le plus froid, le plus glacial du vocabulaire évangélique. Est-ce que vous avez remarqué l'effet que fait le mot prière sur des chrétiens? Vous avez remarqué? Généralement, ça les fait fuir, on ne sait pas pourquoi, mais quand vous dites on va organiser une réunion de prière, d'un seul coup, d'un culte dimanche matin où vous avez 150 personnes, vous vous retrouvez à une poignée de personnes. Le mot prière, c'est étonnant, ou le mot intercession, a souvent une connotation avec le mot ennui, fatigue, lassant, barbant, voire même, démotivant, long, toujours les mêmes, ce n'est pas pour moi, pour les autres, ou alors c'est réservé à une élite, à les plus, ceux qui sont le plus spirituels, il faut être appelé pour prier. Beaucoup d'églises ont des réunions de prière, et depuis que je tourne en France et un peu ailleurs, j'ai estimé grosso modo que 10% à peine des membres d'une église se retrouvent à la réunion de prière. C'est ce que nous avons sur le territoire français aujourd'hui. La question que je me suis posée, c'est comment pouvons-nous avoir ce genre de ressentiment alors que la Bible nous dit que nous avons un Dieu enthousiasmant? Comment nous pouvons apporter à Dieu des prières lassantes, fatigantes, voire même barbantes, alors que notre Dieu est un Dieu enthousiaste, il est un Dieu excitant, il est un Dieu vivant, il est un Dieu qui fait des choses? La prière, donc, si nous nous adressons à un tel Dieu, devrait être un moment excitant. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour être en contact avec lui. Quand vous avez dans un groupe d'amis quelqu'un qui est joyeux, qui est excitant, qui a la pêche, qui a du tonus, qu'est-ce qu'il communique au groupe généralement? Vous avez quelqu'un qui est là, tout triste, il arrive, il est livide, elle n'est pas en forme, elle est angoissée. Qu'est-ce que cette personne va communiquer au groupe? La même chose. Notre Dieu, qui est un Dieu excitant, qui est un Dieu enthousiasmant, nous a donné le moyen de rentrer dans son contact, de rentrer en communion avec lui. Est-ce que cela ne devrait pas nous rendre excitants et enthousiasmants dans la prière? Je crois que souvent nous qualifions la prière par ces adjectifs. C'est parce que je pense que nous en faisons ce qu'elle est aujourd'hui, mais qu'elle n'est pas ce que Dieu voulait qu'elle soit véritablement. Ce n'est pas la faute de Dieu ni du moyen qu'il nous a donné pour entrer en contact avec lui, mais plutôt de la manière dont nous le vivons et la façon dont nous mettons cette relation en pratique. Si nous pensons que la prière, c'est simplement le moyen pour nous de faire connaître nos besoins au Seigneur, c'est très réducteur. La prière, c'est beaucoup plus que cela. C'est non simplement faire connaître nos besoins au Seigneur, mais c'est aussi recevoir la réponse. C'est recevoir la solution, c'est recevoir la direction dans une relation personnelle avec le Père. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi Jésus avait toujours le mot, l'attitude, l'action qu'il fallait, pour peu importe ce qu'il était en train de faire, et que ça se terminait toujours de manière efficace? Pourquoi? Parce que Jésus avait un contact extraordinaire avec le Père. Il avait une relation très intime. Dans Luc 5, il est dit que le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Jésus savait très bien qu'il était incapable d'accomplir quoi que ce soit sur cette terre. Mais parce que le Père lui communiquait tout ce dont il avait besoin, et que la relation était tellement impeccable que le Père lui communiquait tout ce dont il avait besoin de connaître. Et je crois que c'était là le secret. Dans Luc 18, au verset 1er, Jésus adresse une parole pour dire qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Alors on a essayé, et certainement vous avez entendu des quantités de prédications sur la prière. Mais j'aimerais m'arrêter un petit moment ce matin sur qu'est-ce que ça veut dire toujours prier. Qu'est-ce que cela veut dire que prier le Seigneur, être en relation avec lui? Parce que paradoxalement, le premier problème dans la prière, c'est peut-être justement passer des heures à prier. Je m'explique, c'est mon premier point. Le premier problème dans la prière, c'est de passer son temps à parler. Certaines personnes confondent prière et lamentation de Jérémie. Je crois que nous devons recadrer un petit peu la prière pour que justement elle demeure et qu'elle reste efficace. Je ne dis pas que nous n'avons pas à épancher notre cœur devant Dieu. Je ne dis pas que nous n'avons pas le droit de pouvoir exprimer tout ce qu'il y a là au plus profond de nous-mêmes, et parfois nos souffrances, parfois nos maux, parfois certaines difficultés, parfois nos larmes, parfois nos craintes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Bien sûr que nous avons le droit d'apporter tout cela. Mais si notre prière est continuellement une lamentation, une plainte, il y a très peu de chances pour que nous ayons du résultat à notre prière. Si votre prière est simplement une prière très politiquement correcte, « Mon Dieu, mon Père, je te rends grâce de ce que tu m'as donné une vie nouvelle. Mais Seigneur, tu connais ma situation, tu connais mon problème, tu entends mes cris, tu vois mes larmes, etc. Tu vois que ceci est difficile, tu vois les difficultés que j'ai avec un tel, tu vois que dans mon programme de professionnel, ça ne va pas comme je le souhaite, tu vois l'Église, tu vois ceci, tu vois cela. » Et on est sans arrêt en train de se lamenter, de se plaindre. Je comprends que de telles prières finissent vraiment par être lassantes et même barbantes, et je pense même pas que pour Dieu seulement, mais peut-être pour nous aussi. Dans Matthieu 6, au verset 7, il est dit « En priant, il est écrit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Aujourd'hui, les religions, les idéologies, toutes sortes de principes théologiques ou autres font voir qu'on peut multiplier les prières. Maintenant, vous n'avez même plus besoin de prières. Vous allez dans certaines églises, à Paris par exemple et ailleurs, eh bien, vous mettez simplement 1 euro ou 2 euros et vous pouvez avoir des prières pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ça boucle. Et plus vous mettez d'argent, plus il y a des prières qui seront faites. Personne ne les fait. C'est un ordinateur qui les fait derrière vous. Je me demande si cela a vraiment une efficacité. Mais on invente toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est des drapeaux. C'est la période du Dalaï Lama, là. Et que, alors, vous savez que les drapeaux symbolisent les prières et toutes sortes. C'est assez étonnant, tout cela. Je crois que passer des heures à se plaindre de notre situation ne changera rien. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, Dieu connaît déjà toute notre vie. Chaque détail de notre vie, Dieu les connaît. Il connaît toute situation. Donc s'approcher de Dieu et lui dire où nous en sommes, bien sûr, ce que nous vivons, évidemment, nos combats, nos difficultés, c'est une évidence, ce que nous recherchons comme solution, mais tout cela doit prendre très peu de temps. Dans ma relation personnelle avec Dieu, dire à Dieu ce que j'ai besoin, mes conflits, mes difficultés, mes problèmes, etc., ça prend très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà tout. Il sait tout de moi, il sait tout de ma vie, il connaît absolument toute chose de mon existence. Nous devons apprendre à exprimer simplement notre situation et pas à le ressasser continuellement. Alors, prier va prendre une autre connotation. Si on se rend compte que nous ne sommes pas là pour nous lamenter, si nous nous rendons compte que la prière, lorsque nous nous réunissons, ce n'est pas le bulletin d'information de l'église locale, où nous apprenons toutes les dernières nouvelles, et que nous allons apporter tout cela de manière cyclique au Seigneur. Alors, qu'est-ce que la prière? Quelqu'un a dit, la prière, c'est comme respirer. Ça, c'est une autre connotation. c'est différent. Respirer, alors est-ce que je dois respirer des lamentations tout le temps? Non, justement. C'est quoi respirer? Des fois, quand je me lève la nuit ou que je suis tout seul à un endroit ou que je quitte mon bureau, que je prends mon véhicule pour partir, souvent je suis là et je dis « Seigneur, je te bénis, je t'aime ». Des fois, je suis sur la route et je roule, je rentre chez moi ou je vais faire une visite et je dis « Seigneur, je te rends grâce, tu es vraiment merveilleux ». La prière, c'est comme respirer. À chaque moment, à chaque instant, imaginez ce que Dieu pense de vous quand vous faites ça. Ok. Il y a des parents? Imaginez que vos enfants viennent à n'importe quel moment comme cela dans la maison et disent « Oh papa, tu es vraiment formidable, je t'aime ». Ah, ça commence à comprendre là. Imaginez que votre fille, votre garçon arrive et disent « Oh, tu es vraiment merveilleuse maman, vraiment je t'aime, passe une bonne journée ». Est-ce que ça ne ferait pas un petit truc dans votre cœur là? Est-ce que ça ne vous valorise pas? Est-ce que ça vous ne ferait pas du bien? Franchement, bien sûr que oui. Imaginez-vous alors, vous, en tant que les enfants du Père, chaque jour, à chaque instant, dire « Seigneur, je te bénis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es merveilleux ». C'est la même relation que nous entretenons avec notre Père. Et cette prière-là est complètement différente. Il n'y a plus besoin d'un temps, il n'y a plus besoin de programmation, il n'y a plus besoin d'un moment particulier. Non, c'est chaque jour. La prière, c'est comme respirer. À chaque instant, tu peux t'adresser au Père. Et combien le Père se réjouit de pouvoir entendre ses enfants lui dire « Je t'aime, je te bénis, tu es merveilleux, merci pour cette journée, merci pour ce que tu viens de me faire vivre, merci parce que tu me gardes, merci, merci, merci. » Le deuxième problème que nous pouvons rencontrer dans la prière, c'est de conseiller régulièrement Dieu. C'est un problème qui est fâcheux chez nous. C'est mon deuxième point. Arrêtons de conseiller Dieu dans nos prières. Exemple. Seigneur, tu connais ma situation, mais est-ce que tu pourrais faire ceci? Est-ce que tu pourrais faire cela? Est-ce que tu pourrais agir de telle et de telle manière? Est-ce que tu pourrais changer un tel, mais le changer comme ça et comme ça? Seigneur, tu vois ce problème que je rencontre? Si tu pouvais le transformer en faisant intervenir telle personne ou telle situation, etc., etc. Seigneur, si tu pouvais changer ma femme, si tu pouvais changer mon mari, mais si tu pouvais les changer de cette manière et de cette manière encore, etc., 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 etc. Vous n'avez jamais remarqué que quand nous commençons à prier, très souvent, nous avons la fâcheuse tendance de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Faites pas ça, vous? Il n'y a jamais des petits trucs qui s'échappent de temps en temps et vous lui dites « C'est vrai, Seigneur, si tu pouvais faire comme ça, si tu pouvais agir de cette manière-là, si tu pouvais te manifester de telle et de telle façon. » Oui, on a cette faculté de regarder notre problème, notre difficulté, notre besoin, simplement peut-être, pas forcément un problème, mais un besoin. La Bible nous dit qu'on a des besoins. C'est sain d'avoir des besoins. Vous n'avez jamais d'envie, vous. La Bible nous dit que Dieu est capable de déposer dans nos cœurs des besoins. Il y a des besoins qui sont sains, puis la Bible nous dit qu'il y en a d'autres qui sont charnels. Ça, c'est certain que si nous demandons des choses purement charnelles, c'est-à-dire qui viennent de la chair dans le sens qui satisfont que la chair, là, on n'a pas forcément toujours la bonne intelligence de pouvoir recevoir ou réclamer de Dieu ce que nous voulons vraiment. Et là, nous avons besoin de comprendre que Dieu est au-dessus de toute chose et que s'il ne nous les donne pas, c'est très souvent pour notre bien. Parce qu'on a du mal parfois nous-mêmes à analyser. Parfois, certaines personnes veulent absolument faire rentrer une autre personne dans leur vie. Ils ne savent pas du tout que ça va être quelque chose de très dangereux pour eux. Mais Dieu le sait. Et puis, on pourrait multiplier des exemples comme cela. Dieu est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sage que nous. C'est pour ça que sa parole nous dit qu'il a toutes choses en préparation déjà pour nous. Toutes ces choses-là sont préparées, elles sont là. Toutes choses qu'il a préparées pour chacun d'entre nous, elles sont belles et elles sont à notre disposition. Jacques va dire, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Mais si nous savons recevoir dans notre cœur et dans notre vie les passions selon Dieu, celles que lui-même va imprégner en nous, alors nous allons vivre des choses extraordinaires avec lui. La version Sommer dit ceci, « Vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Vous avez vu ce qu'il est écrit? Il est dit « Dans le but de satisfaire. » Consciemment ou inconsciemment, Nous voulons que Dieu agisse dans notre sens à nous. Je vous parlais tout à l'heure du problème, de la difficulté ou du besoin. Et c'est vrai qu'on le voit et on l'analyse avec notre intelligence. Et ensuite, on s'adresse à Dieu en fonction de ce que nous avons analysé du problème. Et surtout, parfois, en fonction des solutions que nous avons déjà trouvé pour Dieu, pour lui donner un coup de main. Parce que le pauvre, avec tous les problèmes qu'il a à gérer, ce serait tellement difficile de tout faire. Donc nous, on va lui donner un petit coup de main. Alors on analyse déjà certaines situations et on dit à Dieu, si tu pouvais intervenir, si tu pouvais te manifester, si tu pouvais faire ceci et cela, de cette façon-là. Le problème, c'est que nous voulons que Dieu agisse dans notre sens, selon ce que nous, nous voyons d'une situation et de la manière dont nous aimerions que cette situation soit réglée. Alors c'est la raison pour laquelle je dis qu'à partir de ce moment-là, on conseille Dieu dans nos prières. Certains vont même aujourd'hui jusqu'à lui donner des ordres. Mais que dit Dieu dans sa parole ? Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, au verset 13, il est dit « Avec l'épreuve, Dieu ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » La nouvelle édition de Genève dit « Avec la tentation, avec l'épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Cela veut dire que quoi que ce soit que nous passons, que nous vivons, Dieu a déjà la solution en réserve. Alors pourquoi nous on se fatigue en lui en donnant d'autres ? Il a déjà une solution, il a déjà une orientation, il sait déjà ce qu'il va accomplir, ce qu'il va faire. Le secret d'une vie de prière efficace, il est là. Le secret d'une vie de prière efficace, c'est d'apprendre à écouter Dieu. Apprendre à l'écouter, apprendre à entendre ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut faire, concernant la situation que nous lui avons apportée dans la prière, concernant le besoin qui est le nôtre, concernant telle ou telle difficulté. Qu'est-ce que Dieu, lui, a déjà prévu à l'avance ? Écouter vaut mieux que parler. Alors si vous enchaînez dans votre vie de prière, dans votre relation avec Dieu, une vie où il n'y a plus de lamentation, une vie où vous apportez simplement vos besoins, vous présentez en quelques secondes, en quelques minutes votre vie au Seigneur qu'il connaît déjà parfaitement, qu'ensuite vous n'entrez pas dans le conseil de Dieu, mais simplement vous dites « Seigneur, voilà cette situation, qu'est-ce que tu veux accomplir maintenant ? Je suis à ta disposition pour écouter ce que tu veux faire. » Et à partir de ce moment-là, notre vie de prière prend une autre dimension. Je me souviens de ce que le frère Jean a partagé quand il était lors de notre séminaire. Il nous a posé cette question. Quel est le premier commandement ? Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là ? Quel est le premier commandement ? Tu ? Alors, lisez avec moi dans Marc au chapitre 12. Et au verset 29. Quel est le premier commandement ? Jésus répond, voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu, etc. Mais quelque part, quel est le premier commandement ? Voici le premier, dit Jésus. Écoute. Et je crois que le premier commandement pour chacun d'entre nous ce matin, c'est écoute. Parce que écouter vaut mieux que parler. Écoute, c'est là le secret. Habituer notre oreille à écouter ce que Dieu a à nous dire. Et je me souviens de cette anecdote qu'il avait donnée. Quand il avait raconté cette histoire avec ce missionnaire qui avait travaillé en Inde et qui avait fait ramener aux États-Unis quelques années plus tard, certains missionnaires qui étaient maintenant des pasteurs, des hommes, des femmes qui étaient qualifiés, et donc pour une convention, il avait fait ramener avec lui certaines personnes, et il marchait là avec un des pasteurs indiens qui avait été donc formé par ce missionnaire. Et alors qu'il marchait là sur le chemin, à un moment donné, dans cette ville de Los Angeles, où il y a un bruit épouvantable, où jamais vous avez un temps de silence, où entre les voitures, entre les klaxons, entre les travaux, c'est continuellement du bruit. Vous êtes là dans un brouhaha constant, alors qu'ils sont tous les deux en train de marcher sur ce trottoir qui mène à l'hôtel. À un moment donné, cet Indien s'arrête, il se stoppe et il dit « J'entends un grillon ». Et le missionnaire américain qui est à côté, il me dit, il est en train de penser en lui, il dit, c'est pas possible, quoi. dans ce brouhaha, dans cette émergence de bruit, de travaux, etc., lui, il s'arrête et il dit « J'entends un grillon ». Le pasteur américain dit « C'est pas possible, écoute le bruit qu'il y a autour de toi ». Et ce pasteur indien lui dit « J'entends un grillon, il y a un grillon quelque part ». Alors il s'arrête, il fait ensuite quelques pas de nouveau, puis il se rapproche. Et puis il se rapproche encore et il entre dans une sorte de hall d'hôtel qui est là, où il y a toutes sortes de végétation. Et au bout de quelques instants, quelques minutes, il se penche et au pied de la végétation de l'hôtel, il récupère un petit grillon. Et le pasteur américain est subjugué, il dit « Mais comment a-t-il pu entendre ?» un grillon au milieu de ce bruit immense. Et le pasteur indien lui dit, maintenant c'est à moi de t'enseigner. Il lui dit, notre oreille entend ce à quoi elle a été habituée. À quoi votre oreille a-t-elle été habituée? Qu'est-ce qu'elle a l'habitude d'entendre? Et ce pasteur indien va dire à ce pasteur missionnaire américain, maintenant je vais te dire à quoi sont habitués les Américains. Et il met la main dans sa poche, il sort quelques pièces et il fait ça. Au milieu du brouhaha. Et en un centième de seconde, 10 personnes se retournent pour voir les pièces qui sont tombées par terre. Il lui dit, tu vois à quoi vos oreilles sont habituées. Je crois que dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Dans notre contact avec Dieu, c'est la même chose. À quoi notre oreille est-elle habituée ce matin? Sommes-nous habitués à écouter ce que Dieu dit? Pourquoi avons-nous souvent pas de réponse dans nos prières? Pourquoi pleurons-nous souvent en disant « Mais Seigneur, pourquoi tu réponds pas ?» Le Seigneur pourrait nous dire « Pourquoi tu pries de cette manière-là? C'est pas de cette façon-là que je veux régler ton problème. » Vous me suivez? Ce n'est pas de cette façon-là que je veux régler cette situation. Tu pries pour un tel, mais prie simplement en demandant ce que moi je veux faire pour cette personne-là, pas en disant toi ce que tu veux accomplir dans la vie de cette personne. Le problème, c'est que souvent on se met à la place de Dieu. Et je me demande si parfois même on ne voudrait pas en retirer quelques bénéfices, quelques gloires. J'ai prié de telle manière, j'ai demandé ceci, j'ai voulu cela. Et quand ça arrive, on a l'impression qu'on a les pectoraux qui se développent, qu'il y a quelque chose là de surnaturel qui se passe en nous et qu'on devient non plus des hommes standards, lambda, mais oh, j'ai prié. T'as prié, mais t'es qui pour avoir fait quelque chose? Toi et moi, on n'est rien. Si quelqu'un a voulu faire quelque chose, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Et je crois que nous devons recevoir un peu plus d'humilité et nous verser un peu plus dans l'humilité. Parce que tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour lui. Nous devons le faire en tout cas pour lui. Et c'est vraiment par sa grâce que nous pouvons accomplir quelque chose. Et là, ça change la donne. Parce que pendant des mois, des années, on peut prier pour des situations, on peut prier pour nos besoins, on peut prier pour des problèmes, on peut prier pour des gens, on peut prier pour plein de choses. Mais on n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'on oublie d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Nous devons apprendre dans la prière à nous laisser inspirer par Dieu. Inspirer. Depuis que j'ai compris ça, ma vie de prière a changé. Je prie plus de la même manière, je n'ai plus la même attitude. Je laisse Dieu conduire ma vie et me laisser inspirer au moment où il... Et des fois, je suis surpris. Parce que alors je suis dans une conversation, dans une discussion comme ça, je sens l'Esprit qui parle à un moment donné, alors je déverse tout simplement ce qu'il met sur mon cœur. Ma vie de prière change. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas mon propre intérêt. Je dis, Seigneur, quel est ton intérêt à toi pour cet homme, cette femme, ces gens que je rencontre? C'est quoi ton intérêt? Qu'est-ce que toi tu veux accomplir dans leur vie? Voyez, nous on réclame le salut des gens, on réclame la guérison, on réclame plein de choses. Mais qu'est-ce que Dieu lui veut faire en fait? Vous allez me dire, mais le Seigneur veut sauver tout le monde. Mais c'est évident. Bien sûr qu'il veut sauver. Mais quel est le moyen qu'il veut utiliser pour sauver un tel ou une telle? Quel est le temps qu'il a réservé? Dieu sait exactement les moments par lesquels nous traversons. Dieu connaît exactement ma vie. Moi, je sais que s'il était venu me chercher à 15 ou 16 ans, jamais j'aurais dit oui. Je le sais. C'était pas le moment. Il fallait que je vive certaines expériences avec Dieu. Et le jour où il est venu me cueillir, c'était son temps. C'était le bon moment. C'est là où j'ai dû accepter. Je ne dis pas qu'il faut donner un âge. Comprenez ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que Dieu est suffisamment grand pour chercher quelqu'un à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans, à 20 ans, à 50 ans ou à 70 ans. Dieu sait exactement quand il faut ramasser la moisson. n'est pas à nous de le remplacer. Nous, on est des simples serviteurs et des simples servantes. Seigneur, fais avec moi ce que tu veux faire. Pour un tel, ça va être dans sa jeunesse. Il va passer par là et par là, il va faire des choses et tu vas le cueillir là. Que Dieu soit béni pour cela. Pour un autre, ça sera plus tard que tu sois béni aussi pour cela, parce que toi, tu connais toutes choses. Bien sûr, tu nous laisses ce choix de la décision, mais en même temps, tu sais et tu connais quand est le moment le plus opportun et tu sais inspirer des hommes et des femmes. Combien vous et moi, on a pu vivre des choses extraordinaires où nous avons été bénis parce que des hommes et des autres femmes que nous ne connaissions pas forcément, à un moment donné, ont été inspirés par Dieu et sont venus à notre rencontre. C'est pas vrai ? Ils ont été inspirés, ils ont reçu quelque chose, ils ont reçu une parole, ils ont reçu une pensée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont écouté. Ils ont obéi. Le secret dans la prière, c'est de se laisser inspirer. Et j'insiste sur ce mot, inspiré par le Saint-Esprit. Laissons-le nous parler. Parce que lorsqu'on est en communion avec Dieu, Dieu nous donne des solutions. Mais si nous, nous sommes sans arrêt, comme je disais tout à l'heure, en train de donner des solutions à Dieu, à quel moment Dieu va pouvoir donner les siennes ? Raison pour laquelle aujourd'hui, dans ma vie de prière, je passe beaucoup plus de temps à écouter qu'à parler. Je prends très peu de temps pour apporter ma vie parce que Dieu la connaît. Il sait les combats, les difficultés, il connaît la maladie, il connaît toutes choses. Alors, je lui apporte. Mais ensuite, j'essaye de prendre beaucoup plus de temps à dire, alors dans cette situation, que veux-tu faire, Seigneur ? Comment veux-tu m'inspirer ? Qu'est-ce que tu veux accomplir ? Comment toi, tu vois la situation ? Comment tu veux agir ? Alors, bien sûr, Dieu, vous le connaissez, il ne se manifeste pas une seule fois de la même manière. Il est un Dieu créateur, c'est ça qui est extraordinaire. Moi, ça m'excite, ça. De voir que ce n'est pas toujours la même chose, que c'est à chaque fois différent. Et c'est vrai que parfois, pendant nos temps de prière, Dieu va nous inspirer. On va entendre, on va recevoir une parole, un mot, une phrase, un passage de l'Écriture ou quelque chose. Mais peut-être que pendant notre temps de prière, on ne va rien recevoir du tout. Quoique, c'est ce qu'on croit. Mais dans le courant de la journée, dans le courant de la semaine, Dieu va organiser les circonstances de notre vie pour répondre à notre prière. Et c'est ça qui est extraordinaire, que seul Dieu est capable de créer dans notre vie. Alors laissons le Seigneur nous imprégner de ce qu'il veut nous donner, imprégner notre cœur et nous donner tout simplement la direction de notre prière. Et j'aimerais vous dire que si vous faites cela, que vous apprenez vraiment à écouter, vous allez être pleinement surpris des réponses que Dieu va vous donner. Surpris. Et je vais même plus loin. Il y a même un risque d'apprendre à écouter Dieu. C'est que ça te dérange. Je m'explique. Dieu risque de vous demander de prier pour une certaine situation d'une certaine manière, alors que vous, vous aimeriez totalement une autre alternative. Vous me comprenez ? On a une situation qui est définie. Et nous, déjà, on y pense à cette situation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a même déjà trouvé une pseudo-solution à communiquer au Seigneur pour qu'on puisse l'indiquer un petit peu et lui mettre des petits fanions sur notre route pour savoir où on se trouve. Mais si nous avons cette attitude d'honnêteté, de vérité avec le Seigneur en disant « Seigneur, je ne veux pas simplement prier pour satisfaire ma propre volonté ou mes besoins, je veux chercher ce que toi tu veux accomplir. Donc, comment toi tu vois cette situation ? Quelle solution tu donnerais à cette situation ? Inspire mon cœur. » Là où vous allez avoir peut-être un risque, c'est que Dieu va vous inspirer effectivement. Et il va vous communiquer quelque chose que vous ne vous attendez pas. Peut-être il va vous demander de prier d'une certaine manière. Il va peut-être vous demander de prier d'une certaine façon. Peut-être il va changer complètement la manière dont vous vous adressez à lui pour cette situation particulière. Sur le coup, ça peut nous déranger. Mais après, nous devons réfléchir. Voulons-nous l'exaucement à la prière ? Ou voulons-nous simplement passer du temps dans la prière ? Donc une fois que nous avons écouté Dieu et que nous avons reçu ce que Dieu voulait faire, apprenons tout simplement à obéir au Seigneur. Et en obéissant au Seigneur, eh bien, en priant alors dans son sens, dans sa direction, nous voyons par la même occasion de quelle manière il est capable d'agir avec puissance sur notre vie. Troisièmement, je parlais de se laisser inspiré par le Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais vous parler de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Deux choses différentes. Vous avez certainement des listes de prières, des sujets de prière, des requêtes, et cela est très bien. Nous-mêmes, à travers la sentinelle de prière, nous envoyons des sujets de prière, nous communiquons toutes sortes de sujets ici en France et dans les pays étrangers, etc. Et nous avons plus de 2000 personnes par semaine aujourd'hui qui prient et qui intercèdent. Mais au-delà du côté technique, nous devons apprendre individuellement à nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Éphésiens 6:18 dit ceci: priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications, et veillez-y avec une entière. Priez en tout temps par l'Esprit. Nous devons apprendre à prier par l'Esprit, et comme je le dis, je ne parle pas maintenant de se laisser inspirer, mais je parle de se laisser diriger. Inspirer, c'est recevoir une connaissance sur quelque chose. Diriger, c'est être sous l'autorité de quelqu'un. Être conduit pour. Que nous dit Paul ? Je rends grâce à Dieu dans 1 Corinthiens 14, 18 de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il est dit, priez en tout temps par l'Esprit. On pourrait interpréter cela peut-être de différentes manières. On a vu qu'il fallait être inspiré par le Saint-Esprit. Mais Paul va plus loin et il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Le parler en langue est une notion dans la prière extraordinaire. Extraordinaire. C'est une dimension supplémentaire. À quoi cela pouvait-il bien servir à l'apôtre Paul que de parler en langue beaucoup plus que tous les autres? 1 Corinthiens l'explique, 14, verset 2. Celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est alors en esprit qu'il dit des mystères. Donc, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Et il dit, quoi donc ? Des mystères. Des mystères. À quoi ça sert ? Romains, chapitre 8, verset 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient parfois de demander dans nos prières. Combien sont ceux qui en sont là parfois ? Moi, chaque semaine, j'ai un paquet de sujets, je ne sais pas comment les apporter, parce que je ne connais pas les solutions. Et je me dis, Seigneur, mais comment toi tu vas pouvoir débrouiller dans cette situation-là ? Comment tu vas pouvoir faire ? Comment tu vas pouvoir aider ce couple ? Comment tu vas pouvoir intervenir dans cette famille ? Comment tu vas pouvoir aider ce frère, cet ami, cette difficulté qu'il traverse ? Comment ? L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. C'est pas extraordinaire ça ? Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné une capacité. Dieu nous a donné une manière et une façon pour prier, pour intercéder, nous adresser à lui. Mais Dieu est allé beaucoup plus loin encore que cela. Il a dit, si toutefois l'homme à un moment donné est dépassé, qu'il n'en peut plus, qu'il ne sait plus comment faire dans cette situation-là, eh bien je vais lui donner encore un autre moyen, un moyen surnaturel de pouvoir s'adresser à moi. Paul dit, verset 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Où ça, c'est difficile. Combien c'est difficile pour nous de maintenir notre esprit, notre intelligence de manière stérile et de laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir en nous. Pas simple, hein ? Mais on doit y apprendre. C'est dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous sommes là et que nous nous abandonnons à lui, et que nous avons prié, que nous l'avons écouté, que peut-être pendant un temps on commence là à parler en langue et commence simplement à entrer dans sa présence. Seigneur, tu vois ces choses qui sont dans mon cœur, tu vois là ce qu'il y a là, tu vois les soucis, tu vois le tracas, tu vois, Seigneur, je ne sais même plus trop comment t'apporter toutes ces choses, mais simplement on commence à parler à Dieu en langue et on commence à lui dire des mystères. Les mystères de Dieu sont une réalité. Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon beau-père vous a raconté son histoire et ce témoignage qu'il a donné lorsqu'il devait partir à la guerre d'Algérie. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez pas ? Lorsque il était donc jeune pasteur, il n'était pas encore marié, je crois qu'il était pasteur de l'église de Mâcon à l'époque, célibataire donc, et très souvent le matin, donc il avait un temps personnel avec Dieu. Et comme il était célibataire, il avait du temps, et donc souvent il avait des frères qui le rejoignaient et chez lui, et il priait un temps. Et puis un jour, il reçoit un courrier comme quoi la guerre d'Algérie a éclaté et qu'il devait aller à la guerre d'Algérie. Et lui, il raconte dans son témoignage que pendant plusieurs semaines, il a demandé à l'église de se réunir et de prier pour ne pas qu'il parte à la guerre, parce que dans sa conception à lui, il ne voyait pas pourquoi il irait là-bas en Algérie. Il avait un travail à accomplir là où il était déjà pasteur, engagé, responsable d'une église, etc. Donc il avait un travail à faire ici. Et il ne comprenait pas pourquoi Dieu devait l'amener là-bas, pourquoi il avait cette demande-là. Alors pendant plusieurs semaines, l'église se réunit et il prie pour cela. Et régulièrement, à partir de ce moment-là, tous les matins, lorsqu'il prie dans sa cuisine, eh bien, il y a des frères qui viennent le voir et ils prient ensemble et ils intercèdent. Alors je ne sais pas comment, je n'étais pas là pour écouter. Mais ils ont certainement donné 2-3 solutions au Seigneur. Ne le fais pas partir. Et puis ils lui ont donné toutes les raisons du monde. C'est notre pasteur, c'est le seul qui est le berger, il va nous garder. Quand il sera plus là, comment on va faire, etc. Enfin bref, toutes sortes, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus... Enfin bref, toutes sortes de choses. Ce que vous faites tous les jours, bien sûr, chez vous. Et alors qu'il est là, avec des frères, et qu'ils prient, ils intercèdent ensemble, ils passent des temps de prière, le Saint-Esprit les visite, et à un moment, ils commencent à louer le Seigneur en langue, et tous ensemble, ils parlent en langue, etc. Et donc plusieurs semaines après, le frère qui est à côté de lui, il commence à prier, « Seigneur, je te bénis parce que tu vas envoyer ton serviteur en Algérie. Merci parce que là-bas, tu vas lui faire du bien. Merci parce qu'il va être vraiment ton serviteur. Tu vas le conduire, tu vas le placer exactement là où tu as prévu. Et il va être un instrument de bénédiction. » Et alors que le frère commence à prier de cette manière-là, mon beau-père, et vous l'avez vu, il est costaud, et il l'attrape comme ça par l'épaule. Il lui fait, mais pourquoi tu pries comme ça ? Et le frère, ils étaient tous les deux à genoux. Là, le frère lui dit, « Mais c'est ce que tu viens de dire ?» Ce que je viens de dire. Le frère dit, mais ça fait plusieurs minutes que tu pries là en langue et tu parles en allemand. Tu connais l'allemand ? Mon beau-père dit, non, je ne connais pas l'allemand. Il dit, mais moi je connais l'allemand. Et tout ce que tu viens de dire, c'est ce que je viens de dire dans ma prière. Tu étais en train de dire à Dieu que tu allais partir et que tu te réjouissais de partir là-bas, que tu allais le servir. Et donc moi je priais pour toi, pour simplement confirmer ce que tu étais en train de dire. Quand tu pries en langue, tu dis des mystères qui ne sont pas forcément selon ton intelligence, mais qui sont selon l'intelligence de ton roi, de ton Seigneur, de ton Sauveur, celui qui t'a sauvé et qui veut bénir abondamment ta vie. Alléluia. Nous pouvons faire cette expérience-là. Je l'ai fait des quantités de fois. Le nombre de fois où Dieu a résolu des choses, soit que je pensais qu'il ne pouvait pas se résoudre, soit que je voulais qu'elles soient résolues d'une certaine manière, mais Dieu avait une autre alternative. Non, je veux que ça soit résolu comme ça. Si tu t'entêtes avec Dieu, tu seras toujours malheureux. Tout le temps. Ça peut durer des années et des années et des années entières. Si tu cherches à recevoir ce que Dieu ne veut pas te donner, tu seras toujours aigri, tu critiqueras toujours, tu seras toujours dans la médisance parce que jamais rien ira dans ta vie. Jamais rien. Et vous pouvez appliquer ça sur tous les plans de votre existence, sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan de votre relation avec Dieu, sur le plan spirituel, sur le plan de votre service pour Dieu, sur tous les plans, vous pouvez appliquer cela. Finissons par comprendre que pour être pleinement épanoui, nous devons simplement faire ce que Dieu nous demande de faire. Il n'y a pas plus épanoui qu'un serviteur qui a accompli ce que son maître lui a demandé d'accomplir. Et je crois que c'est tout simplement notre rôle. Parler en langue, c'est une édification personnelle. L'apôtre dit au verset 4, « Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. » Ça veut dire il se bâtit lui-même, il se construit lui-même. Il y a un travail intérieur de l'esprit en nous lorsque nous parlons à Dieu en esprit. Lorsque nous parlons à Dieu en esprit, son esprit opère en nous un certain nombre de choses. Il vient nous orienter, il vient nous conduire, il vient nous diriger. Que ce soit dans notre vie de prière ou que ce soit dans notre marche. Que dit Paul, verset 15 ? Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je n'ai pas le temps de m'étendre ce matin, mais on pourrait parler de la louange, la prière et de cette importance qu'il y a là, de cette vie de l'esprit abondante que Dieu veut nous donner. Mais je terminerai simplement avec cet équilibre que l'apôtre Paul nous donne. Au verset 19, il est écrit « Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. » Je suis toujours épaté par l'équilibre de l'apôtre Paul. Je suis toujours surpris par cela. Son équilibre est excellent, mais cela ne l'empêche pas de parler 10 000 paroles en langue plus que les autres. Il le fait, mais il sait quand le faire, quand il est seul avec son Dieu. Alors, allons chercher ce matin, par la foi et en esprit, ce que Dieu veut vous révéler. Et continuons ensemble l'intercession avec notre intelligence, quand Dieu nous révèle des choses, et puis par l'esprit, quand nous ne le savons pas, mais que nous sommes là dans la foi et que nous cherchons ce que Dieu veut accomplir. Et si Dieu voit des hommes et des femmes avec une telle disposition de cœur, je crois que ta vie spirituelle va changer. Je crois que l'Église pourra changer également. Je crois que justement notre région, notre monde va changer. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un impact particulier. Il va y avoir une atmosphère différente. Pourquoi ? Parce que Dieu trouvera des hommes et des femmes qui ne seront pas simplement là en train de chercher à se satisfaire eux-mêmes, mais à satisfaire le Maître. Je suis là à ton écoute, Seigneur. Déverse dans mon cœur ce que tu veux que je fasse, et je le fais. Une église marche forcément bien lorsque les hommes et les femmes, les membres de l'église, sont à l'écoute de ce que Dieu veut faire. Parce que le Seigneur donne une direction, il donne une vision, il donne son onction et il montre son chemin sur lequel il faut marcher et sur lequel il faut le suivre. Finalement, je vous pose la question ce matin. La prière, c'est si pénible que ça ? On a donné une image à la prière. On a façonné la prière d'une certaine manière. On a dit la prière c'est comme ça, la prière c'est comme ça, la prière c'est autrement. Moi je circule dans des pays où la prière est complètement différente. Quand je vais en Afrique, pour ceux qui sont venus avec moi, vous avez vu la prière ? Même moi je suis obligé d'avoir des boules-caisses. Donc j'invite tous ceux qui ont des problèmes d'audition et qui veulent être guéris, venez faire un séjour avec moi en Afrique. Mais c'est leur culture. C'est comme ça. Quand on est au Québec, je discutais encore avec un pasteur il n'y a pas très longtemps. Ah, il m'a dit, mais j'apprécie tellement quand je viens en France comment je vois les Français prier. Hein ? Alors là, tu m'étonnes, il faut que tu me parles. J'ai dit, c'est une moquerie ou c'est... Il me dit, non, je suis très sérieux. Ils me disent, chez nous, si tu organises une réunion de prière telle que vous les faites vous en France... en laissant les gens s'exprimer, etc., t'entends des mouches voler. T'en as pas un qui prie. On est obligé de faire intervenir les gens au micro, sans arrêt, avec un sujet, et les dire, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Dans chaque pays, c'est différent. Dans chaque pays, il y a des cultures différentes. Dans chaque pays, il y a... vous allez aux États-Unis, c'est encore pareil. Vous allez en Amérique du Sud, c'est différent. Nous, le problème, c'est qu'on a pris des méthodologies. On a pris des manières de faire et on a dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Moi aujourd'hui je suis en train de me détacher de plus en plus de ça parce que je me rends compte que oui il y a des méthodes, oui il y a des choses, il y a des principes de base que Dieu nous donne et qu'il faut respecter. Mais Dieu s'adapte à chaque circonstance, à chaque pays, à chaque culture. Même dans un pays comme la France, Dieu je crois est capable de s'adapter à chaque département, à chaque village. Parce que chaque mentalité est différente. Et la chose essentielle qu'il nous demande, c'est « Écoute-moi. Écoute-moi et moi je vais te dire comment faire. Écoute-moi et les choses vont changer. Apprends à être attentif à ce que je veux te dire et je vais te révéler les secrets dont tu as besoin de recevoir. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie sentimentale, dans ta vie spirituelle. Dans ton désir de servir, je vais te révéler. Mais écoute-moi. Arrête de toujours dire que toi, tu veux faire les choses. Apprends à écouter ce que moi, je veux te communiquer. Et je crois que lorsque nous arrivons à accepter dans la soumission et par la foi que nous dépendons de Dieu de cette manière-là, notre vie ne peut être que enrichie, fortifiée et encouragée. À partir de ce moment-là, tu ne t'opposes plus à la volonté de Dieu, et ce sera mon dernier point, mais je ne le ferai pas aujourd'hui, je le ferai peut-être une prochaine fois. Le risque de s'opposer à la volonté du Saint-Esprit, lorsque tu écoutes Dieu, tu es sur son chemin, et quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, même si autour de toi il y a encore de la misère, il y a encore des difficultés, mais il y en aura toujours. Vous savez, j'ai toujours cette phrase de Jésus qui m'a choqué, qui me choquait à l'époque. Vous savez, quand ses disciples viennent et qu'ils veulent, donner à manger à tous ces gens, ces pauvres qui sont autour, et Jésus dit, laissez-les, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Vous vous souvenez de cette phrase ? Laissez-les. Vous avez toujours... Là maintenant, c'est un moment particulier. C'est un moment différent. Il faut que vous soyez là avec moi, dit Jésus. J'ai quelque chose à faire avec vous. Je crois que cette phrase est une réalité. Jusqu'au retour de Jésus, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des malheureux, il y aura toujours des hommes et des femmes qui sont dans la difficulté, il y aura toujours des hommes et des femmes qui seront dans le divorce, qui seront dans le malheur, qui seront dans la souffrance, qui seront battus, il y aura toujours des choses terribles. Ça ne changera pas. Toujours, jusqu'à ce que Jésus intervienne et change les choses. Nous avons notre responsabilité de faire ce que Dieu nous demande de faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, bien au contraire. Je bénis Dieu pour des équipes comme Jesus Révolution et d'autres qui vont témoigner, qui vont, je pense aussi J'aime Force, qui font ça régulièrement maintenant de Paris. Il y a bientôt plus d'une trentaine d'étudiants encore cette année. Ils ont reloué une troisième maison maintenant pour former tous ces jeunes qui désirent travailler, œuvrer en collaboration avec des églises, qui veulent se laisser former pendant 2 ans, 3 ans, et au bout de 3 ans de formation, rejoindre l'église locale. Ils n'ont pas, ils ne cherchent pas un titre de pasteur, ils ne cherchent pas un titre de missionnaire, ils ne cherchent pas un titre de serviteur de ceci ou de ministère de cela, non. Ils cherchent simplement le fait de servir Dieu là où Dieu va les placer, en relation avec l'église locale. Et je bénis Dieu pour tous ces jeunes qui ont un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur ouvert, qui ne sont pas là sous-jacents à rechercher une certaine gloire, mais qui sont là simplement pour dire, Seigneur, je veux te servir. J'aimerais vous dire, si tu veux vraiment servir Dieu, il y a de quoi faire. Là où des fois on voit des hommes et des femmes qui ne servent pas Dieu, c'est parce qu'en fin de compte, ce n'est pas vraiment Dieu qu'ils veulent servir, c'est eux-mêmes. Ils cherchent une reconnaissance. Excusez-moi de dire cela, mais c'est ce que je vois de plus en plus. Des hommes et des femmes qui cherchent de la reconnaissance, ils cherchent que l'on voit qu'ils servent, qu'ils font des choses. C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi ? Si nous cherchons nous-mêmes à amplifier notre ministère, à ouvrir des portes, à chercher des solutions, nous vivrons tout le temps dans une certaine angoisse et dans une certaine déception, parce que la vie, finalement, ne nous satisfera jamais. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit simplement, tu veux faire quelque chose, moi je vais m'occuper de toi. Mets-toi à disposition, entre dans cette pleine humilité, fais simplement ce que je te demande de faire, et alors tu seras épanoui parce que tu seras heureux de vivre pleinement ce que je t'ai communiqué d'accomplir. Et je crois que notre vie, à partir de ce moment-là, pourrait être complètement différente. Amen. Alors on termine. 1. La prière change de face, c'est plus la même manière de prier. On ne passe pas de temps à nous lamenter, mais on apprend à écouter Dieu. On ne conseille plus Dieu dans nos prières, mais on cherche pourquoi, en deux mots, il faut prier et comment il faut prier pour chacune de nos situations. Et alors on se laisse ensuite inspirer, puis diriger par le Saint-Esprit, et on accepte sa volonté en lui obéissant, même lorsque ça nous déplaît, en lui disant, Seigneur, de toute façon, c'est toi qui as raison, parce que c'est toi qui as préparé les choses d'avance pour moi. Alors je veux apprendre à avoir un cœur soumis et obéissant. Alléluia. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Seigneur, que ta parole œuvre en nous, qu'elle grandisse, et que nous puissions vraiment, les uns et les autres, chacun d'entre nous, la vivre avec passion, la voir vivre et se réaliser dans notre existence. Seigneur, nous ne voulons pas simplement entendre parler de ta parole, nous ne voulons pas simplement la voir chez les autres, mais nous la voulons chez chacun d'entre nous. être vivante et en action. Merci pour ces moments. Merci pour ce culte ce matin. Merci pour ceux et celles que tu as bénis, à qui tu as révélé quelque chose ce matin, à qui tu t'es manifesté. Merci de nous apprendre à avoir toujours une oreille attentive, Seigneur, à écouter ce que tu veux faire. Pardon pour toutes les fois où nous nous lamentons devant toi. Pardon pour toutes les fois où nous te conseillons, où nous te disons ce qu'il faut faire, alors que toi, le grand Seigneur, tu sais exactement ce qu'il faut accomplir sur nos vies. Seigneur, pardonne-nous et aide-nous, Seigneur, à être pleinement à ton écoute, à comprendre ce que tu veux accomplir, à le mettre en œuvre. Que ton nom soit béni. Bénis mes frères et mes sœurs ce matin. Bénis mes amis qui sont là. Et que chacun d'entre nous, nous soyons des fidèles serviteurs et servantes du Dieu Très-Haut, qui apprenions à comprendre et à mettre en pratique ce que tu dis et à le vivre pleinement, afin que nous soyons dans une vie heureuse et harmonieuse pour l'avancement de ton royaume que tu veux faire avancer en France, mais également en Europe et dans le monde entier où tu as des projets. Fais-nous comprendre tes projets, Seigneur, et que ta grâce se manifeste dans le nom de Jésus. Amen.